Vous savez, la vie communautaire, c'est aussi le partage de la parole biblique. Hein. Derrière Dieu est la source de notre vie. Voilà, on va essayer de mettre Dieu au centre. Quand je dois annoncer, enfin, ou je dois partager la parole de Dieu, ben, je suis pauvre comme je suis comme tout le monde. Moi, je sais pas quoi dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie et je dis Seigneur, mets sur mon cœur les choses que je dois dire à l'Église. Et alors, c'est peut-être pas ce que je dirais normalement, mais Dieu me donne toujours du grain à moudre. Il y a toujours des choses à dire. Et voilà, je vous livre ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Donc je vais vous partager Luc 10, versets 38 à 42. Merci. Alors, durant son ministère terrestre, vous savez que Jésus, il parcourait à pied. Hein, il n'y avait pas de vélo ou de moto à cette époque. Il parcourait à pied les sentiers de Galilée pour rencontrer son peuple et annoncer aux foules rassemblées la bonne nouvelle du royaume des cieux et aussi du salut en Jésus-Christ. Alors, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Vous voyez la carte derrière. Et sur le chemin qu'il y menait, eh bien, au milieu des plaines de Judée, Jésus arriva à un petit village accroché sur le flanc oriental du mont des Oliviers. C'était le village de Béthanie. Alors, Béthanie, c'est un nom qui signifie « maison des dattes non mûres ». Voilà, hein, bon, vous le saurez. Il est situé à environ 3 kilomètres de Jérusalem, sur la route qui mène à Jéricho. Cette bourgade, elle est réputée pour la qualité de ses dattes, mais vous pensez bien que ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin. Elle est surtout connue pour 4 personnages bibliques qui habitent dans ses murs. Et ces 4 personnages, vous connaissez certainement Marthe, qui est l'aînée de la famille et dont le nom signifie « dame, maîtresse », c'est-à-dire que ça doit être une femme de caractère. Elle possède une maison à Béthanie. Et puis, il y a Marie, la cadette, et son frère Lazare, qui se situe entre les deux, entre Marthe et Marie. Lazare que Jésus ressuscita et qui est rapporté en Jean 11, 43. Puis enfin, un dernier personnage un peu moins connu, c'est Simon le lépreux, que Jésus guérit de la lèpre très certainement à Béthanie. D'après certains historiens, eh bien Marthe était probablement soit l'épouse, soit la veuve de Simon. Car dans la Bible, il est mentionné qu'elle servait comme maîtresse de maison chez Simon. Voilà donc dressé en quelques mots le cadre sociologique de l'histoire que nous allons partager ce matin. Alors voilà comment commence le récit. Comme Jésus est entré dans le village, une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Vous voyez, on retombe dans ce que Isabelle nous a dit ce matin. Écoutez. Luc 10, 38-39. Alors, le récit débute par un événement remarquable sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin, l'accueil de Jésus par Marthe dans sa maison. L'accueil, l'hospitalité, faisait partie des exigences sociales de la culture méditerranéenne. Ouvrir sa porte, sa maison pour accueillir un étranger de passage, était tout à fait normal. C'eût été une véritable honte que de laisser quelqu'un dehors. Pourtant, vous savez, au-delà de la tradition, l'accueil est avant tout une affaire de cœur. Certains n'ont pas le cœur à recevoir, même si c'est la tradition. Luc 10, verset 10. Jésus dit, « Dans quelque ville que vous entriez, et où on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Recevoir, c'est ouvrir son cœur aux autres, en même temps que sa maison, son porte-monnaie, etc. À travers Marthe, qui ouvre son cœur et sa maison à Jésus, j'aimerais qu'on s'arrête un instant ce matin sur le véritable accueil spirituel. Accueillir Jésus dans son cœur. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, Jésus n'impose jamais sa présence. Il ne dit pas « Marthe, reçois-moi ». Il vient à la rencontre des gens et il attend leur invitation. Spirituellement, Jésus s'approche de chaque femme, chaque homme, et il frappe à la porte de son cœur. Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous connaissez ce verset. Et lorsqu'une porte s'ouvre, lorsqu'un cœur répond et accueille Jésus, eh bien, il ne se passe pas un événement tout à fait banal, sans importance. Bien au contraire, c'est un événement conséquent. Jésus vient pour souper avec celle ou celui qui l'accueille. Vous savez que Jésus, il ne cherche pas le confort, le luxe, la qualité, mais le partage et la rencontre. C'est ça qu'il cherche Jésus. À travers le repas, il veut dans un premier temps créer, installer une véritable relation spirituelle. Et vous savez que Jésus ne vient pas seul, ni sans rien. Lorsque Jésus vient souper, il vient avec le pain et avec le vin. Il amène quelque chose. Prends et mange avec moi ce pain qui représente mon corps livré pour toi. Prends et bois ce vin avec moi qui est le symbole de mon sang qui a été versé pour le pardon de tes péchés. Par le partage de ce souper, celui qui reçoit Jésus dans son cœur reçoit en bénédiction le pardon de ses péchés. C'est pas rien, ça. Et bien sûr, Jésus comme son sauveur personnel. Jésus, vous savez, il ne ressort jamais d'un cœur qu'il a accueilli et reçu sans y avoir au préalable installé son Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, pourquoi faire? Pourquoi lui il reste pas? Pourquoi il installe son Saint-Esprit? Tout d'abord, l'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est l'Esprit du Christ. C'est Dieu présent en nous par son Esprit. Et il a schématiquement plusieurs rôles. Dans le cœur qui a reçu Jésus, qu'il a sincèrement accueilli, eh bien le Saint-Esprit marque clairement sa nouvelle appartenance. Cet homme, cette femme sont sauvés. Ils sont passés de Satan à Christ, des ténèbres à la lumière. Quand un cœur reçoit Jésus, il passe de Satan à Christ, des ténèbres à la lumière. Celle ou celui qui accueille Jésus comme son sauveur personnel reçoit de la part du Saint-Esprit l'assurance qu'il est sauvé. Jean 3,36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 1,12 « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alors frères, sœurs, celle ou celui qui accueille Jésus comme son sauveur personnel est sauvé et reçoit la vie éternelle en récompense. Amen. Amen, d'accord. Alors, maintenant, il y a un bémol. On peut être chrétien en ayant reçu Jésus comme son sauveur personnel. Là, on est chrétien. En ayant un cœur pour Jésus, en lui exprimant sa reconnaissance éternelle parce que Jésus est entré dans notre cœur pour le salut. Mais aussi, on peut limiter l'action de l'Esprit-Saint qui est en nous. Alors, pourquoi ? Parce qu'on peut penser qu'être sauvé, ben c'est tout, c'est suffisant. C'est comme quelqu'un qui aurait passé le bac et qui dirait « maintenant j'ai le bac, eh ben ça y est, je suis tranquille ». À l'époque de l'apôtre Paul, on peut penser que des chrétiens ignoraient qu'ils avaient en eux le Saint-Esprit et qu'ils voulaient les transformer à l'image du Christ. Ben vous avez ce passage de 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas ?» Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'y savent pas. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Voilà. Est-ce que vous le savez ? Frères, sœurs, avez-vous conscience qu'en recevant Jésus dans votre cœur, vous avez fait, nous avons fait de notre corps un édifice saint où habite l'Esprit Saint de Dieu ? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Frères, sœurs, en recevant Jésus dans notre cœur, en le recevant comme notre libérateur, notre sauveur personnel, nous n'avons pas pris notre indépendance, mais nous sommes passés de Satan à Christ. Nous lui avons confié les clés de notre maison. Nous ne nous appartenons plus. Et pourquoi ? Eh bien parce que Dieu nous a rachetés à un très grand prix. Et vous connaissez ce prix ? C'est celui de la vie de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alors voilà le second rôle du Saint-Esprit, glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui désormais appartiennent à Christ. Après avoir accueilli Jésus dans notre cœur, il faut à présent accueillir Dieu dans tout notre être intérieur, en remettant les clés de notre propre maison au Saint-Esprit. Mon Dieu, sois non seulement mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur, le nouveau propriétaire de ma vie, et ça, c'est la deuxième étape de ma vie chrétienne. Et c'est là qu'apparaît la notion symbolique de maison. Bien sûr, la maison représente, vous savez ce que c'est qu'une maison, ça représente le bâtiment où nous vivons. Mais symboliquement, elle représente notre être, notre vie intérieure. Et c'est ce sens que donne l'apôtre Paul lorsqu'il écrit « Nous savons en effet que si cette tente, cette maison, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Cette tente, cette maison. Mais la maison, c'est aussi symboliquement la famille que nous créons. Alors, on va déjà voir notre être intérieur. C'est notre nouvelle vie de chrétien sauvé. Ce n'est plus seulement le cœur qui est le centre stratégique qui a été touché par Jésus, mais tout notre être, tout ce que nous sommes, que nous voulons confier à Dieu à travers le Saint-Esprit. En lui confiant les clés de notre maison, nous l'accueillons, nous l'invitons à bâtir la nouvelle maison de notre vie. Et là, je voudrais citer le psaume de Salomon, en tout cas le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Frères, sœurs, ce verset de Salomon est vraiment puissant. Voilà comment je le comprends. Si je n'invite pas le Saint-Esprit à bâtir la maison de ma nouvelle vie en Christ, je suis un chrétien qui travaille dans le vide, qui œuvre absolument pour rien. Je peux être très actif, je peux même travailler pour Dieu, le louer jour et nuit, si ce n'est pas lui qui construit ma maison, la maison de ma vie, ben je fais fausse route, même si je suis sauvé. Est-ce que nous avons remis les clés de notre maison à Dieu ? Vraiment, pas simplement le cœur qui était touché, mais est-ce qu'on a remis les clés de notre être intérieur, de notre maison intérieure à Dieu ? Notre famille aussi. Josué 24,15 « Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. » Prendre position. Josué prend position pour lui et pour sa maison, pour lui et les siens. Frères, sœurs, je suis toujours ému de voir dans le paysage évangélique des familles chrétiennes engagées de père en fils dans le ministère pastoral. Moi et ma maison, dit Jésus, nous servirons l'Éternel. Voulons-nous, avons-nous la volonté de construire avec Dieu une vie, une famille, une maison ? Je vais vous donner trois témoignages. Moi, après ma conversion, bien avant de me marier avec Wardia, j'ai remis non seulement ma vie, mais encore ma future famille entre les mains de Dieu. Seigneur, voilà ce que je veux. Moi, je veux une famille qui serve l'Éternel. Et j'ai pu voir l'action de Dieu dans ma vie, malgré les galères. Avec Wardia, nous avons prié bien avant qu'elle soit enceinte pour les enfants que Dieu voudrait bien nous donner, nous accorder. Et chaque jour de ma vie chrétienne, moi, je prie pour ma famille. Wardia, elle a reçu cette promesse au début de sa conversion. « Sache maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison qui lui sert de sanctuaire. » Quand on accueille Jésus et qu'on donne les clés de la maison au Saint-Esprit, eh bien, il agit, il casse et il construit. Alors, il commence par casser. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit se met à casser ? Eh bien, la Bible, elle le dit. Matthieu 9, 16, Jésus demande. Il dit, mais écoutez, il n'y a quand même personne qui ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Car la pièce ajoutée arracherait une partie de l'habit et la déchirure deviendrait pire. Réfléchissons. Si l'on construit du neuf sur des murs anciens, est-ce que cela va tenir? Non. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit souvent casser d'anciens murs, même des murs porteurs, d'anciennes habitudes, d'anciens péchés. Et cela peut être douloureux pour nous, même s'il le fait toujours avec délicatesse. Alors c'est vrai que souvent on résiste, on s'oppose, on ne veut pas. Mais le Saint-Esprit œuvre pour notre bien. Mais après, il construit. Cela dure toute la vie, c'est la sanctification. Lorsque Jésus entre dans une maison comme celle de Marthe, il opère des changements. Il donne de nouvelles orientations. Il apporte la pensée de Dieu. Oui, le troisième rôle du Saint-Esprit, c'est de faire Jésus le Seigneur de notre vie. Ça a un sens, le Seigneur de notre vie. Pourquoi Seigneur ? Bien parce que Dieu est l'autorité suprême, c'est le maître absolu de l'univers. En l'accueillant et en lui remettant les clés de ma maison, ben je lui donne aussi autorité sur ma vie. Alors c'est vrai que nous avons le plus souvent une très mauvaise idée de l'image d'un maître. Car sur cette terre, il faut bien l'avouer, les maîtres humilient et méprisent fréquemment ceux qui les servent. Et voilà pourquoi Jésus, tout en restant Seigneur, nous offre cette belle image. Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Non, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà pourquoi je vous appelle ami. Et nous savons que nous sommes plus que des amis, parce que Dieu, c'est notre Père, et nous sommes ses enfants. Frères, sœurs, avons-nous fait de Jésus le Seigneur, l'autorité absolue de notre vie? Et puis, l'autre accueil aussi, c'est l'accueil au quotidien. Si Jésus vit en nous par son Saint-Esprit, qu'il est bon et agréable de le rencontrer en esprit, en passant du temps avec lui par la prière, par laquelle on peut lui exprimer chaque jour sa reconnaissance et lui confier ses soucis et ses fardeaux. Ça fait vivre aussi notre spiritualité, mais aussi l'accueillir par la lecture de sa parole, qui est une écoute de sa pensée, de sa volonté, et par laquelle Jésus nous parle. Voilà, et on peut accomplir aussi un service. C'est ce que nous sommes et accomplissons. Le service, c'est ce que nous sommes et accomplissons quotidiennement en tant que chrétiens pour Christ et sous la puissance du Saint-Esprit. Je vais résumer très rapidement ce que nous avons dit en trois dessins. C'est 1 Corinthiens 3, 9. C'est la suivante. Quand on ouvre son cœur et qu'on accueille Jésus dans sa vie, on bâtit avec le Saint-Esprit sa maison sur une fondation solide. Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité de construire. La fondation, c'est Jésus-Christ. Si on bâtit avec le Saint-Esprit et qu'on lui laisse les clés de la maison, il nous conduit dans une construction solide, avec des œuvres précieuses et de qualité. Si on bâtit soi-même, eh bien on produit des œuvres fragiles, sans consistance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien au jour du jugement, lorsque seront évaluées les œuvres de chacun par le feu du jugement de Dieu, eh bien toutes celles et ceux qui ont bâti sur Jésus-Christ seront sauvés, car leur fondement est indestructible. Mais si notre vie a été construite et dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien nos œuvres ne seront pas consumées par le feu. Si par contre notre vie a été construite et dirigée, non pas par le Saint-Esprit, mais par nous, eh bien nos œuvres disparaîtront. Vous voyez ? Mais nous serons sauvés. Revenons au texte. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Après l'avoir accueillie, maintenant, elle est mécontente. Marthe et Marie sont sœurs. Elles ont toutes deux accepté d'accueillir Jésus dans leur maison donc de bien le recevoir et de l'honorer. Mais chacune va le faire à sa façon, de la manière qui lui semble la plus adaptée. Marthe, c'est une femme de devoir. Recevoir Jésus, c'est s'investir à fond pour lui dans le travail. Il ne doit matériellement manquer de rien. C'est la réputation de sa maison à elle et de son accueil qui sont en jeu. Alors tout doit être propre dans la maison, nickel. Les sols et les murs doivent briller. Elle passe tout à l'eau de Javel. Pas de poussière sous le lit. Les draps propres sont remplacés par des draps encore plus propres. La salle de bain est passée au coton-tige. La vaisselle est relavée au vinaigre ménager 12 degrés. Les vitres doivent scintiller à l'éco-line active. Et le repas doit être copieux, servi dans des assiettes étincelantes. Ça, c'est la conception de l'accueil, du service selon Marthe. Soins domestiques, nickel. Service impeccable, réception parfaite. C'est sa façon d'honorer Jésus. C'est une conception tout à fait honorable qu'on retrouve chez bien des chrétiens et dans l'Église. Marie, elle est plus cool. Elle a une autre conception de l'accueil. Certes, on ne reçoit pas dans la crasse et dans le jeûne, mais de là à passer tout son temps aux soins domestiques, ça, c'est pas sa priorité. Marie préfère passer du temps avec son hôte et l'entourer, le questionner, l'écouter, l'honorer de sa présence. Voilà ce que préfère Marie. Le service que propose Marthe est très exigeant, très prenant. Il faut être partout à la fois, courir dans la maison, être au four et au moulin. Alors bien sûr, elle n'y arrive pas. Et elle n'y arrive pas seule. Alors la moutarde lui monte au nez. Elle râle intérieurement. Ça commence comme ça. Hein ? En fait, elle se sent seule. Les autres ne font rien. On lui met tout sur le dos. Il y en a marre, archi marre. J'ai besoin d'aide. Elle ne voit pas que ce qui l'écrase, c'est l'activité qu'elle s'impose elle-même. Alors, elle regarde vers sa sœur. Celle qui a ses yeux, eh ben, est une glandeuse, quoi. Elle se tourne les pouces. Elle ne fait rien. Elle commence à la juger. Elle devrait m'aider, car sa façon d'honorer Jésus, ça, c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Elle ferait mieux d'être au ménage et dans la cuisine. Avons-nous ce type de jugement dans nos églises? Il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui prient ou qui font rien, quoi. Hors d'elle, elle se décide, non pas à aller voir sa sœur, ce qu'elle devrait faire, mais à aller se plaindre à l'autorité, au maître, à Jésus. « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dans sa question à Jésus, il y a un besoin de soutien. Elle interpelle Jésus de manière à le mettre de son côté. « Je sers, et tu vois, je suis seul. » Est-ce que tu peux cautionner ça? Elle utilise des arguments qui auraient fait mouche sur n'importe quel homme de Judée, sur n'importe quelle autorité. Elle pensait, de par son éducation, que Jésus allait dire à Marie « Oui, Marthe, t'as raison. Va donc, elle est ta sœur, à la cuisine, c'est là ta place, c'est là ton rôle. Hein » C'est ce qu'on dit chez beaucoup de personnes. Sûre d'elle, elle rajoute « Dis-lui donc de venir m'aider. » Elle cherche à s'appuyer sur l'autorité de Jésus pour imposer à Marie sa conception du service. Et dans l'Église, en tant que chrétien, on peut être tenté d'imposer sa manière de servir, sa conception, en s'appuyant sur des versets bibliques ciblés ou en cherchant l'appui des responsables aussi spirituels. Hein, monsieur le pasteur, vous avez vu comment il se comporte, etc. La réponse de Jésus est en droite ligne de ce que disait fort justement Jean-Pierre dimanche dernier, vous savez, dans les erreurs et les maladresses de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il répond à l'inverse de ce que l'on attend, de manière différente de nos pensées humaines. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ?» Dans sa réponse, Jésus ne condamne ni le travail, ni l'action, ni l'activité. Ce qu'il stigmatise, c'est l'excès d'engagement, l'hyperactivité, le perfectionnisme. Alors pourquoi ? Parce que tout excès conduit au dysfonctionnement. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En étant dans l'agitation, eh bien Marthe sombre dans l'inquiétude. Lorsqu'on accueille le Seigneur, en général, on reçoit la paix. 1 Corinthiens 14:33, Dieu est un Dieu de paix. Vous savez, la paix, c'est aussi un fruit de l'esprit. La présence du Seigneur donne la sérénité. Ésaïe 30:15, que tout le monde connaît par cœur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà ce qu'apporte l'Esprit de Jésus. Or, le risque aussi, c'est de penser que ceux qui sont trop calmes et trop détendus, ils font rien. Vous l'avez compris, ce ne sont pas ces états de quiétude qui caractérisent Marthe. Elle est, elle, énervée, inquiète, découragée. Marthe, dans son excès d'engagement, elle délaisse complètement Jésus, qu'elle veut pourtant honorer. Elle est tellement engagée dans les soins ménagers qu'elle en oublie de relationner avec Jésus son hôte. Elle le néglige complètement. Dans nos églises, dans nos vies chrétiennes, nous retrouvons souvent ce type de comportement. On voit souvent des chrétiens, et moi je m'inclus aussi dans ce type de comportement, qui ont des agendas surchargés, qui n'ont plus le temps de consacrer à la famille, aux amis, qui n'ont plus le temps de prier, qui n'ont plus le temps de lire la Bible, de se reposer, submergés qu'ils sont par les activités pour Dieu. Et puis le perfectionnisme. Marthe cherche aussi à honorer Jésus par la perfection. Elle veut lui offrir ce qu'il y a de mieux, que tout soit impeccable, qu'il reparte de chez elle comblé. La recherche de la perfection crée l'inquiétude, parce qu'on place la barre beaucoup trop haute. Chercher la perfection dans le service est une mauvaise approche de Dieu, une méconnaissance de ce qu'il attend de nous. Est-ce que Dieu a besoin de notre perfection, ou plutôt d'un cœur sincère, même imparfait? Ça n'exclut pas la qualité, hein. On peut apporter à Jésus un service de qualité, mais la perfection, c'est autre chose. Le comportement type de Marthe conduit le plus souvent au découragement, à l'épuisement, à l'insatisfaction, car c'est un comportement charnel. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. À présent, Jésus se place au niveau purement spirituel. Les œuvres de Marthe sont des œuvres de bois, de chaume, de foin. Les œuvres de Marie sont au contraire des œuvres d'or, d'argent, de pierres précieuses. C'est la bonne part qui ne lui sera pas enlevée par le feu du jugement. Alors, quelle seule chose nécessaire a fait Marie? Elle a fait la seule chose pour grandir avec Dieu, pour être disciple du Christ. Elle se met aux pieds de Jésus. Elle lui est soumise. Il est son Seigneur. Et puis aussi, elle priorise l'écoute. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis, elle reste en paix. Elle reste calme. Elle donne un témoignage chrétien, contrairement à Marthe, qui est complètement excitée. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. Voici donc, pour conclure, deux femmes, deux sœurs qui aiment Jésus, qui l'accueillent sincèrement. L'une la sert charnellement, l'autre spirituellement. Et nous, comment et de quelle manière le servons-nous? Je voudrais terminer sur un petit témoignage personnel que j'ai connu il y a 30 ans. J'étais jeune chrétien. Et bon, je servais l'Église de tout mon cœur. Et Dieu m'avait appris, vraiment, en me convertissant, que le plus important, c'était de passer du temps dans un culte personnel avec lui. Donc tous les jours, je passais du temps avec Dieu. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fête à l'Église, et on m'avait demandé donc de faire l'entretien de l'église, hein, vous savez, nettoyer, j'avais pris une équipe de nettoyage, d'animer des stands, etc. Donc toute la journée, j'ai passé du temps avec Dieu, pour Dieu, pour l'église, etc. Et j'ai pas fait mon culte personnel. Le soir, je suis rentré, j'étais tellement fatigué que je lui ai dit à Dieu, regarde Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, tu m'exempteras de mon culte personnel. Bon, après, vous me croyez si vous voulez ou pas. J'avais à peine dit ça que j'ai entendu cette phrase, Daniel, tu n'as rien fait. Daniel, tu n'as rien fait. Vous voyez, Moi, je croyais avoir fait tellement de choses pour Dieu. Daniel, tu n'as rien fait. Si tu n'as pas fait ton culte personnel, ta relation avec moi, pris du temps pour m'écouter, tu n'as rien fait. Voilà, je voudrais vous laisser sur ce témoignage. Et je vais prendre un moment pour prier avec vous. Seigneur, merci pour cet épisode de Marthe et Marie. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles aussi que on peut vraiment, Seigneur, avoir l'impression de tout te donner et que, Seigneur, on oublie l'essentiel, c'est de t'écouter, de passer du temps avec toi, de relationner, de se rappeler que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, que tu es notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-nous à être plutôt qu'à faire. Mais Seigneur, lorsque l'on est, aide-nous aussi à faire. Seigneur, tu es notre Tout-Puissant et je veux prier vraiment pour notre Église, que tu la bénisses en abondance. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Merci.